طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours 64 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et on est arrivé au passage numéro 3 dans le volume 2, à la page 483. Et donc on continue avec les explications que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ramène pour montrer l'interdiction d'imiter les kuffars, et que les musulmans n'ont pas le droit d'imiter les kuffars. Donc il dit wa aydan famimma nahana Allah subhanahu wa ta'ala fihi mushabahatu ahli al-kitab wa kana haqquhu أن يقدم في أوائل الكتاب قوله سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم. وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique que il dit il y a également parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le fait de ressembler ou d'imiter les gens du livre, et il dit que ce passage-là même méritait plutôt d'être mis au début du livre. Il dit il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 16 dans surat al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu ou révélé de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et ne point être pareil ou semblable à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps long, et leur cœur s'endurcirent. Et beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc le Cheikh il dit dans le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que leur cœur s'humilie à l'invocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, et de ne point être semblable à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Wala takunu kalladhina utul kitab, ne pas être semblable ou ne pas imiter, ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ça, c'est une interdiction absolue de ressembler aux gens du livre, et en particulier de leur ressembler dans la dureté du cœur. Parce que dans le verset, c'est ça ce qui est spécifique. D'accord? Et il dit que le fait d'avoir le cœur dur, ça c'est le résultat ou le fruit de la désobéissance et des péchés. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne d'autres versets. Il dit وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Donc, ensuite, il cite donc d'autres versets et il dit: Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les juifs par la dureté du cœur dans plusieurs parties dans le Coran et dans plusieurs versets dans le Coran. Et il mentionne les versets 73 à 74 dans Surat al-Baqarah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans ces versets-là: Nous dîmes donc, frappez-le, c'est-à-dire celui qui a été tué, avec une partie de la vache. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Ça c'est dans l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il a ordonné à son peuple de tuer une vache. Et le but de ça c'était que la personne qui avait été tuée, dont on ignorait le meurtrier, une fois qu'on l'ait touché avec une partie de cette vache, eh bien elle reviendrait à la vie pour dévoiler le nom de son meurtrier. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça comme un signe, hein, comme un miracle en même temps. Et yani pour montrer sa puissance. Donc il dit: Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Et ils sont devenus comme des pierres ou plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, et d'autres s'affaissent par la crainte d'Allah. Et Allah n'est certes jamais inattentif à ce que vous faites. Ensuite, il cite d'autres versets qui ont rapport avec le même sujet dans Surat Al-Imran, Surat Al-Ma'idah. Donc on va lire ces versets-là en arabe, puis on va lire la traduction par la suite. Et Cheikh Al-Fawzan, il va faire le tafsir détaillé de chaque verset après. Donc il dit: قال تعالى وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى العلم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله ولهذا كان السلف يحذرون هذا. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il cite ensuite les versets 12 et 13 dans Surat al-Ma'idah qui parle justement à propos des fils d'Israël. Il dit: Ce qui signifie, Allah a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 10 chefs d'entre eux. 10 chefs pour les 10 tribus, les 12 chefs pour les 12 tribus. Non, nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit: Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez, et faisiez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos péchés hein, et vos méfaits et vous ferez entrer au jardin sous lequel coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, rejette la foi, s'égare certes du droit chemin. Puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Et ils détournent les paroles de leur sens. Hein, ils déforment le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc, oublie leur faute, car Allah aime certes les bienfaisants. Naam. Donc ça c'est les versets que le cheikh a cités. Puis après il dit, après avoir mentionné ces versets, il dit, il y a des gens parmi cette umma, c'est-à-dire la umma de l'islam, la umma du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui même s'apparentent ou prétendent à la science et à la religion, qui ont pris certaines de ces caractéristiques ou une portion de ces caractéristiques qui sont présentes chez Bani Israël. C'est-à-dire qu'ils ont le cœur dur et qui rentrent dans les descriptions qui ont été mentionnées dans les versets. Et il dit quiconque a un minimum de compréhension et de clairvoyance, eh bien, il va constater ça. Et il va voir ça chez certaines personnes. Na'ouzou billah. Donc le cheikh dit, on demande refuge en Allah de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, et ainsi que de ce que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, déteste. Et c'est pour cette raison-là que les salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, ils mettaient en garde contre ça. Ils mettaient en garde contre ça. Ensuite, maintenant, on va lire les explications et les clarification de Cheikh Al-Fawzan au sujet de tout ce que le Cheikh a cité comme verset dans ces passages-là. Et donc il dit قَوْلُهُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أي أَمَا آنَ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أي تَلِينُ عِنْدَ الذِّكْرِ وَالْمَوْعِظَةِ وَسَمَعِ الْقُرْآنِ وَتَنْقَادُ لَهُ وَهَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى أو هذا كقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فمن وسائل الخشوع التدبر عند تلاوة القرآن ولا أن يمره على اللسان دون تدبر معانيه وغاياته ولهذا قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Donc le cheikh il dit, il mentionne le verset ألم يأني للذين آمنوا qu'on a mentionné dans Sourate Al-Hadid, c'est-à-dire le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'invocation d'Allah, c'est-à-dire le cheikh il dit n'est-il pas venu le temps pour les gens de la foi que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, que leur cœur s'adoucisse lorsqu'ils se rappellent d'Allah, lorsqu'ils entendent la bonne exhortation, lorsqu'ils entendent le Coran et qu'ils s'y qu'ils se soumettent à ses ordres. Et il mentionne également le verset dans Sourate Az-Zumar, le verset 23, justement dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala décrit cette situation-là du fait que les croyants, lorsqu'ils entendent le Coran, eh bien, leur cœur frémisse. Hein, et leur peau également. Allah fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, hein, voilà le livre, c'est-à-dire le guide d'Allah, le livre qui guide, Allah guide par le guide par lequel Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut, Mais quiconque Allah égare, il n'y a point de guide pour lui. Donc parmi les moyens par lesquels on peut atteindre ou obtenir cette humilité du cœur, eh bien il y a, le cheikh il mentionne parmi ces moyens-là, le fait de méditer et de réfléchir sur la récitation du Coran. C'est-à-dire que quand tu entends le Coran, c'est pas juste que tu le récites comme ça, ou tu l'entends comme ça, puis tu passes sur les versets, ou tu le récites avec ta langue, sans réfléchir sur ses significations et sur l'objectif et le but de ces versets-là. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, il mentionne le verset 29 dans Sourate Sad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un livre que nous avons révélé vers toi et qui est béni pour que vous réfléchissiez ou vous méditiez sur ces versets. Et également le verset 82 dans Sourate An-Nisa, n'ont-ils pas réfléchi, n'ont-ils pas médité sur le Coran? S'ils venaient d'autres que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences. S'ils venaient d'autres que d'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences. C'est la preuve que le Coran, il ne vient pas de personne d'autre que Allah, puisque tout ce qui est révélé dedans est en harmonie, chaque partie avec l'autre. Et même dans la sunna, tu ne trouves pas de contradiction entre la sunna et le Coran, puisque tout est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il explique aussi, il dit وَمِنْ أَسْبَابِ الْخُشُوعِ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ التِّلَاوَةَ فِي حَالَةٍ لَيْسَ فِيهَا مَا يُشَوِّشُ عَلَى الْقَارِئِ مِنْ أَصْوَاتِ وَأَحَادِيثِ فَذَلِكَ أَدْعَى إِلَى حُضُورِ الذِّهْنِ وَانْتِبَاهِ الْحَوَاسِ ولذلك جاء أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أوله قبل النوم قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة والناشئة هي القيام بعد النوم فيكون المرء صافي الذهن وحاضر القلب فيتوافق القلب مع اللسان فيمر القرآن على القلب قبل اللسان وقد نهانا الله عن التشبه بأهل الكتاب في قسوة قلوبهم مع رؤيتهم الآيات وسماعهم للقرآن. Donc le cheikh il dit parmi les causes pour avoir la concentration et l'humilité durant la récitation du Coran, eh bien le cheikh il dit qu'il faut lire dans un état où il n'y a pas quelque chose qui va nous distraire ou nous déranger l'esprit alors qu'on est en train de le réciter. Comme par exemple, des gens qui sont en train de parler ou bien du bruit ou des choses de ce genre. Et donc, le cheikh, il dit, si on le récite dans un état ou dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui parle, eh bien on peut être plus concentré, avoir l'esprit présent et nos sens sont plus éveillés. Et c'est pour ça que même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous mentionne que de faire le qiyam, c'est de réciter le Coran dans la prière à la fin de la nuit, c'est mieux que de le faire au début de la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça justement dans le verset 6 dans sourate Al-Muzzammil. Il dit la prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Pourquoi? Parce que la récitation que tu fais après avoir dormi, tu te réveilles à la fin de la nuit, c'est un moment où ton esprit est libre et pas distrait par d'autres choses, ton cœur est présent. Et qu'est-ce que tu récites avec ta langue est en accord avec qu'est-ce qui est dans ton cœur. Donc ça passe par ton cœur avant ta langue. Et donc ça c'est des trucs, des moyens que le cheikh il nous montre et nous enseigne pour avoir une meilleure concentration quand on récite le Coran et pour avoir une présence du cœur plus présente, comme si plus forte, pour être capable de vraiment profiter de la récitation du Coran. Et il mentionne que Allah nous a interdit d'imiter ou de ressembler aux gens du livre dans la dureté du cœur après avoir vu et entendu les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre. Après le cheikh il dit wa nahnu manhiyuna أن نتشبه باليهود في تغافلهم وانشغالهم عن التوراة والإنجيل، فلقد أنزل الله فيهما الموعظة والحكمة ولكن قلوبهم لا تزال قاسية. Donc le cheikh il dit on a été interdit également de ressembler aux juifs dans leur insouciance, hein, dans leur insouciance et dans leur indifférence face à leurs livres et aussi à leur distraction par rapport à la Torah et à l'Injil que Allah leur a révélé. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait révélé dans ces deux livres plein d'exhortations et de la sagesse, mais que leur cœur est resté dur. Hein? Donc le cheikh il dit ولهذا قال ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب يعني التوراة والإنجيل فقست قلوبهم أي بسبب إعراضهم عن كتاب الله وعدم تدبره وعدم التفقه في معانيه وطلب تفسيره على الوجه الصحيح فالإعراض عن تدبر القرآن يسبب قسوة في القلب في القلوب كما قال ابن القيم رحمه الله تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça que Allah il dit ne sois pas comme ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire la Torah et l'Injil. Faqasat qulubuhum, leurs cœurs sont devenus durs. Et pourquoi leurs cœurs sont devenus durs? Parce qu'ils se sont détournés du livre d'Allah et ils n'ont pas médité sur ses sens, n'ont pas essayé de chercher à avoir une meilleure compréhension de ses significations et ils n'ont pas recherché non plus son interprétation authentique et correcte. Et donc, du fait que on se détourne de la réflexion et de la méditation sur le sens de ce que signifie le Coran, eh bien, ça c'est quelque chose qui fait en sorte et qui cause la dureté des cœurs. Comme l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il le mentionne, réfléchis et médite sur le Coran si tu veux la guidance, car la science est en dessous de la méditation du Coran. Et il dit ensuite وَقَوْلُهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ نَهْيٌ مُطْلَقْ عَنْ مُشَبَهَتِهِمْ. Il dit أي أن هذا نهي. وعليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله كيف الحال رضا أنت بخير ما شاء الله وفيك بركة وعليكم السلام ورحمة الله أنا بخير بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله. Donc le cheikh dit ay anna hadha nahyun 'an at-tashabbuh bihim mutlaqan fi kulli ma huwa min khasa'isihim thumma khassasa wa nassa 'ala shay'in wahid wa huwa qaswatul qulub ma'a kitabillah 'azza wa jalla kama qala fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum fa hadha nahyun lil mu'minin أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى فلما تطاول عليهم الزمان بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا وغير ذلك فقست قلوبهم عند ذلك فلا يعني يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم لذلك. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit ne soyez pas comme ceux qui ont reçu le livre, c'est une interdiction générale de leur ressembler dans quoi que ce soit. Donc tu ne dois pas leur ressembler dans quoi que ce soit de leur particularité. Puis il a spécifié par la suite une chose unique en particulier, c'est la dureté du cœur qu'ils ont avec le livre d'Allah. Et puis il dit ils ont trouvé le temps long et leur cœur s'est endurci. Il dit ça c'est une interdiction pour les croyants de leur ressembler, de ressembler à ceux qui ont reçu le livre et qui l'ont porté avant eux, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, puis que par la suite ils ont trouvé le temps long, le temps leur a paru long, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le livre, ils ont commencé à changer le message, déformer le sens du message, et ils l'ont vendu à vil prix. Et d'autres choses également qu'ils ont fait. Et leur cœur est devenu dur à partir de ce moment-là. Et donc, ils n'acceptent plus l'exhortation et leur cœur ne s'adoucit plus lorsqu'ils le récitent et lorsqu'ils l'entendent. Et souvent, parfois, les musulmans, ils lisent dans le Coran les mentions à propos des juifs et des chrétiens, puis ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ça juste comme si c'était une histoire, comme si, ah, ça c'est ce qui est arrivé à d'autres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne ces choses-là, c'est pour que ce soit une leçon pour nous, les musulmans, aujourd'hui, pour ceux qui sont sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on ne devienne pas comme eux, pour qu'on ne commence pas à s'égarer comme eux se sont égarés. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait, voici ce qui leur est arrivé, et voici la cause, pourquoi ça leur est arrivé. Maintenant, vous évitez ces choses-là pour éviter justement de devenir comme eux. Donc il nous montre le problème, la maladie, et il nous montre les causes de cette maladie, et puis il nous montre le remède, comment on évite de l'attraper ou de l'avoir, cette maladie. Malheureusement, parfois on ne prend pas des leçons de ça. Allah musta'an. Donc Cheikh dit, فالحاصل أن هذا تنبيه لهذه الأمة بأن تحافظ على تعاهد كتاب ربها قراءة وفهما وعملا وتدبرا وإلا فإنه سيحصل لها ما حصل لتلك الأمم. Tu vois? Exactement. Donc le Cheikh dit, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer? Qu'est-ce que ça signifie? C'est que il y a dans ce que Allah nous a mentionné ici, c'est comme s'il veut prendre l'attention de cette Ummah et faire comprendre que on doit rester accroché et fidèle à l'engagement qu'on a envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en le lisant, en le comprenant, en l'appliquant et en réfléchissant sur ses sens et en méditant sur sa signification. Sinon, la même chose qui est arrivée à ces autres peuples va nous arriver à nous aussi. Personne n'est à l'abri. Si on ne prend pas les précautions et si on ne fait pas les causes nécessaires, on n'est pas à l'abri de l'égarement, nous aussi. Et il dit ensuite, وقوله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة يذكر الله في هذه الآيات صفة من صفات اليهود وهي أنهم كانوا يعاينون المعجزات والآيات الباهرة ثم لا يتأثرون بها ولا تلين قلوبهم لها ومن ذلك المعجزة التي جرت على يد موسى عليه السلام لما قتل قتيل من بني إسرائيل ولم يعلم قاتله فأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها أي بجزء من البقرة فلما نفذوا الأمر بعد التباطؤ والتلكؤ وضربوه بجزء منها أحياه الله وقال فلان هو الذي قتلني وكان رجلا من أقاربه أو من بني عمه حيث قتله من أجل أن يرثه ويأخذ ماله فهم شاهدوا هذه الآية العجيبة وشاهدوا إحياء الميت وإخباره عن قتله ومع هذا لم يتأثروا بهذه الآية فقال الله يصف ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم ذكر أن الحجارة منها ما يلين لخشية الله ومنها ما يتشقق فيخرج منه الماء ومنها ما يهبط من خشية الله كما قال تعالى في الآية الأخرى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولكن قلوبهم ما لانت ولا خشعت فغدت كالحجارة بل هي أشد قسوة منها والله قد أخبرنا أن الجبال تسبح مع داود عليه السلام وتردد تسبيحه ودعاءه فالجبال والجمادات خلق الله فيها إدراكا يناسبها فهي تخشع مع ذكر الله يعني ومن القرآن، ولكن قلب ابن آدم في الغالب لا يخشع لشيء. Donc le Cheikh il explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans surat al-Baqara l'histoire qui est arrivée avec cet homme qu'on avait tué, et que yani Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer sa puissance et ses signes, hein. Donc il a ordonné à Bani Israël de tuer une vache et de frapper le mort avec une partie de cette vache. Puis que après ça le mort il revient à la vie pour informer Bani Israël de son tueur, de celui qui l'avait tué. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est ainsi que Allah fait vivre les morts, et il vous montre ces signes pour que vous puissiez réfléchir. Puis vos cœurs se sont endurcis par la suite, et ils sont donc comme de la pierre ou plus durs encore. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut mentionner par ces versets-là une des caractéristiques, parmi les caractéristiques des juifs, c'est-à-dire yani, la dureté du cœur. Après tous les signes et les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait voir, et puis ça leur fait aucun effet, et leur cœur ne s'adoucit pas malgré ça, ils ont le cœur dur, et les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré, ça n'a aucun effet sur eux. Et ça c'est un miracle ici qui s'est produit par la main de Moussa alayhi salam. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer parmi Bani Israël, et on ne savait pas qui l'avait tué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'une vache soit sacrifiée et tuée pour yani, qu'on frappe le mort par une partie de cette vache. Et ils ont pris beaucoup de temps avant de le faire. Hein? On voit dans les versets qui viennent avant ces versets-là que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de tuer n'importe quelle vache. Mais ils ont commencé à poser plein de questions. Quelle sorte de vache? Quelle couleur de vache? Et ainsi de suite. Hein? Et donc, ils ne voulaient pas le faire. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne à la fin de sacrifier la vache qu'ils aimaient le plus. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah depuis le début, Allah leur a rendu la tâche plus dure pour les punir. Et à la fin, après tout ce temps, ils ont finalement accepté de le faire, et lorsqu'ils ont frappé donc le mort avec une partie de cette vache, il s'est levé, hein, il est revenu à la vie, il s'est levé, il a dit c'est lui qui m'a tué, hein, et c'était un de ses proches ou bien son cousin qui l'avait tué dans le but de prendre son héritage ou de prendre son argent. Et donc ils ont vu ce miracle et ce signe étonnant, et ils ont vu un homme revenir à la vie, hein, et mentionner qui l'a tué, et malgré ça, yani, ça n'a eu aucun impact, aucun effet sur eux. Et donc Allah les a décrits comme ayant le cœur dur, comme une pierre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, et même dans les pierres, tu vois qu'il y en a qui sont adoucis par là, yani, le rappel d'Allah et la crainte d'Allah. Et il y en a qui se fendent pour laisser sortir l'eau. Et d'autres, yani, s'affaissent par la crainte d'Allah. Donc, parfois, les pierres même sont moins dures que le cœur de l'homme. Allah al-Musta'an. Et il dit également comme exemple, le verset 21 dans surat al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu, yani, s'humilier et s'affaisser, yani, s'écraser par crainte d'Allah, par la crainte d'Allah. Donc le cheikh il dit, mais les cœurs eux, ils ne s'adoucissent pas, ils ne s'humilient pas, hein, ils restent comme la pierre, et même plus durs que la pierre. Et il dit, Allah nous a informé donc que les montagnes même glorifient Allah avec Daoud alayhi salam, et elle répète le tasbih, hein, les glorifications et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et son invocation. Et tandis que on sait que les montagnes sont des choses inertes, hein, mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé en ces créatures inertes une certaine يعني un certain sens qu'ils sont capables de يعني glorifier Allah سبحانه وتعالى d'une manière qui leur convienne. Et nous, on ne sait pas comment ils glorifient Allah, mais ils glorifient Allah. Et يعني, tandis que يعني, l'être humain, son cœur, en général, يعني, il ne s'humilie pas et il reste dur. Il dit وخلاصة الأمر
أن الله نهانا أن نعرض عن كتاب ربنا فتقسو قلوبنا كما أعرض بنو إسرائيل عن كتابهم فقست قلوبهم وفيه منع التشبه بأهل الكتاب وفيه وجوب التأثر بآيات الله عند مشاهدتهم وعند تلاوتها.
Le cheikh il dit, en résumé, on peut comprendre que dans ce verset il y a un ordre d'Allah qui nous interdit de se détourner du livre de notre Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous interdit donc par conséquent d'avoir un cœur qui s'endurcit et de ne pas se détourner comme les fils d'Israël se sont détournés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a causé par la suite la dureté de leur cœur. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de musulmans, ils parlent contre les juifs et ils critiquent les juifs, et en particulier ils critiquent l'État d'Israël et les zionistes. Beaucoup de critiques de ce genre. Mais quand on regarde la réalité de la Ummah parfois et comment parfois ils imitent Banu Israël dans beaucoup de leurs caractéristiques, et de la même manière comment Banu Israël se sont détournés du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on voit aujourd'hui que beaucoup de musulmans également se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment par exemple beaucoup de juifs sont des laïcs, des gens qui se détournent de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent musulmans appellent à la laïcité et ils se détournent du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son application. Mais pourtant tu les vois réciter le Coran dans la mosquée et lire le Coran tous les jours. Mais lire le Coran sans réfléchir sur ses sens et sans appliquer qu'est-ce qui est dedans, eh bien ça c'est une imitation des juifs. Donc le fait de détester les juifs mais tu les imites, c'est une contradiction. Si tu les détestes pour Allah, c'est une ibad, mais le fait de les détester et toi tu fais comme eux, alors tu devrais te détester toi-même puisque tu es en train de suivre la même chose qu'eux. Donc c'est ça que Allah nous a interdit, d'être comme eux et de les imiter. Le cheikh il dit ensuite وقوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وهذه الآية العظيمة التي قصها الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل تبين موقفهم من الموعظة والذكر وكيف أنهم يقابلون ذلك بالإعراض وعدم الالتفات. فالله حذر هذه الأمة من أن تسلك هذا المسلك. Des fois les musulmans aujourd'hui, beaucoup de musulmans ils ont mal compris la réalité du Coran et de l'islam. Quand ils lisent des versets sur Bani Israël, ils pensent que c'est à propos de Bani Israël seulement à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou avant, et ils ne réalisent pas que Allah subhanahu wa ta'ala il décrit l'état des cœurs de ces gens-là et de cette catégorie de personnes. Peu importe à quelle époque, ils ont ces caractéristiques-là. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient comme ça. Et aujourd'hui, ils ont encore des caractéristiques comme ça aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des caractéristiques et des attributs qu'on peut reconnaître. Et il nous avertit de ne pas développer ces caractéristiques-là en nous-mêmes aussi. Et donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé Bani Israël, c'est lui qui a créé Al-Yahoud, c'est lui qui a créé les Kuffar, les Mushrikines. Il a créé l'homme de façon générale, et comme il dit dans le Coran, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. N'est-ce pas, qu'il connaît ce qu'il crée,
alors que c'est lui Al-Latif, Al-Khabir. Donc, il connaît la nature humaine, il connaît la nature des juifs, il connaît la nature des chrétiens, il connaît la nature des kuffars, il connaît la nature des mouchriquins, il connaît la nature des musulmans. Et quand il décrit un peuple ou des gens dans le Coran, il connaît leur nature et il sait comment les décrire, peu importe le temps, peu importe l'endroit, peu importe l'époque. Cette caractéristique-là qu'ils ont, ça fait partie de leur nature, ça ne change pas. Hein? Et donc, ça c'est une chose très importante à comprendre. Parce qu'il y en a des gens, ils veulent toujours interpréter, ah ça c'était à l'époque du prophète, alors ça, plus maintenant. Les juifs ne sont plus comme ça. Ce n'est pas vrai. Encore aujourd'hui, tu les regardes, tu vois que ça décrit exactement comment ils sont encore aujourd'hui. Hein? Allah al-Musta'an. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne, dans cette histoire, dans ces versets, yani, à propos de Bani Israël, leur position par rapport aux exhortations, par rapport aux rappels, et comment ils opposent ces exhortations et ce rappel par le fait de se détourner et de s'écarter complètement de ce que Allah leur ordonne. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a averti cette umma de ne pas prendre cette voie et de ne pas suivre cette façon et cette conduite. Il dit qawluhu wa qawluhu wa laqad akhadha Allahu mithaq bani Israil ay akhadha mubay'ata 'urafa bani Israil li Musa 'ala as-sam' wa at-ta'a wa ba'athna minhum 12 naqiba an-nuqaba وهم الرؤساء والزعماء الذين يتكلمون باسم أقوامهم وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة حيث أقام من الأنصار نقباء عنهم. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement, il a pris l'engagement des fils d'Israël, c'est-à-dire l'engagement c'est comme une allégeance de Bani Israël qu'ils ont donné comme une bay'a, une allégeance à Moussa alayhi salam, qu'ils allaient l'écouter et l'obéir, l'écouter et lui obéir. Et il dit, nous avons choisi parmi eux 12 chefs ou représentants, donc chaque partie ou chaque tribu avait un chef ou un représentant qui parle au nom de la tribu ou au nom de chaque peuple. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait lorsqu'il est venu à Médine, il a fait la hijra, il est arrivé avec les Ansar et il a pris deux, il a choisi parmi eux des représentants et des chefs. Il dit wa qala Allah inni ma'akum ay qala li bani Israil inni ma'akum wa hadhihi al-ma'iyyah hadhihi ma'iyyatun khassa لأن المعية على قسمين معية عامة لجميع الخلق بمعنى الإحاطة والعلم ومعية خاصة بالمؤمنين وهي معية النصر والتأييد فقوله إني معكم أي معية خاصة وإلا فهو مع جميع الناس بالمعية العامة أما المعية الخاصة فتكون بشروط وهي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم هذه هي الشروط إقامة الصلاة إيتاء الزكاة إلى آخره والنتيجة أن الله يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار إذا وفوا بعهد الله وهو كقوله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Donc le cheikh il dit, Allah a dit, il leur a dit à Moussa, à Bani Israël et au Nuqaba, il leur a dit, je suis avec vous. Et le fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est avec quelqu'un ou qu'il est avec nous, ça peut avoir deux sens. Ça peut avoir un sens qui est général, puis ça peut avoir un sens qui est plus particulier. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est avec nous de façon générale, c'est qu'il est avec nous par sa science et par le fait qu'il enveloppe tout de sa connaissance. Ça, c'est la, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-ma'iyya al-amma. C'est-à-dire le fait qu'il est avec sa création de manière générale. Puis il y a une autre ma'iyya qui est plus spécifique. Et ça, ça veut dire que quand c'est plus spécifique, c'est-à-dire qu'il est avec nous dans le sens qu'il va nous défendre, qu'il va venir à notre secours et à notre aide. Hein? Il va nous donner la victoire. C'est ça ce que signifie la ma'iyya qui est spécifique et particulière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Bani Israël à ce moment-là, inni ma'akum, je suis avec vous. Mais c'est dans le sens de al-ma'iyya khassa, celle qui est particulière, en voulant dire je vais vous défendre, je vais vous donner la victoire, je vais vous aider. C'est ça que ça voulait dire. Sauf que pour obtenir cette ma'iyya qui est spécifique et particulière, il faut respecter certaines conditions. Allah subhanahu wa ta'ala il donne pas cette ma'iyya à n'importe qui ou de n'importe quelle façon. Il faut respecter des conditions. Et parmi ces conditions, Allah subhanahu wa ta'ala il en mentionne dans le verset. Il dit si vous établissez la salat et donnez la zakat et croyez en mes messagers et les respectez, les obéir et donnez à Allah un bon prêt, eh bien, et en résultat, je vais expier et pardonner vos péchés. Donc ça, c'est les conditions pour obtenir cette ma'iyya, ce support et cette aide de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le résultat, c'est que Allah il va pardonner nos péchés et les effacer et nous faire rentrer au paradis. Puisqu'il dit par la suite, وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ أَوْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Donc ça c'est à condition bien entendu qu'il respecte les conditions de l'engagement. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne un autre exemple de ça dans un autre verset. Il dit wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Respectez mon engagement et je vais respecter votre engagement. Wa iyaya farhabun. Et c'est moi seul que vous devez craindre. Donc également parmi les conditions wa amantum bi rusuli. C'est-à-dire vous devez croire en tous mes messagers. Le cheikh il dit ay bi jami' ar-rusul wa hum kafaru bi ba'd ar-rusul. Fal yahud kafaru bi Isa alayhi salam wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa an-nasara kafaru bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa man kafara bi rasulin wahid fa huwa kafirun bi jami' ar-rusul. فإن الله جل وعلا أمر بالإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب. Donc le cheikh il dit, et que vous croyez, hein, Allah il dit que vous croyez en mes messagers. Et donc il dit, c'est-à-dire en tous mes messagers. Et eux, ils ont renié certains d'entre les messagers. Certains d'entre les messagers, ils ont rejeté, ils ont refusé de croire en eux. Par exemple, les juifs refusent de croire en Isa, alayhi salam. Ils ne croient pas en Jésus. Et ils ne croient pas non plus en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce sont deux parmi les grands messagers que Allah a envoyés à l'humanité, hein, que Allah a envoyés aux hommes. Isa est venu pour Bani Israël, et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, qui est venu pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et An-Nasara, les chrétiens, eux, ont renié la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc en rejetant la foi en un seul des messagers, ça équivaut et ça correspond à rejeter la foi en tous les messagers sans exception. Donc si quelqu'un il rejette la foi en un seul des messagers d'Allah, eh bien c'est comme s'ils avaient rejeté ou renié tous les autres. Et également la même chose pour les livres. La même chose pour les livres révélés. Donc si quelqu'un rejette un seul des livres qu'Allah a révélés, c'est comme s'il les avait reniés tous. Après il dit « وَعَزَّرْتُمُوهُمْ أي وَقَّرْتُمُوهُمْ وَاحْتَرَمْتُمُوهُمْ لِأَنَّ حَقَّ الرَّسُولِ التَّعْظِيمُ وَالتَّوْقِيرُ وَالِحْتِرَامُ وَمِنْ غَيْرِ غُلُوٍّ كَغُلُوِ النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ أو غلو القبوريين من هذه الأمة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في الأولياء والصالحين. فالمقصود التعزير قال الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. والتعزير يطلق على معنيين متضادين، يطلق التعزير ويراد به التوقير والإكرام وهو المراد هنا، ويطلق ويراد التأديب على المخالفات التي ليس فيها حد ولا كفارة. Donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc que vous croyez en mes messagers et que, yani, le verbe c'est wa'azzartumuhum. Et le cheikh explique que ça veut dire que vous les respectiez. Hein? Il dit le droit que les messagers ont sur nous, c'est qu'on les respecte, qu'on les honore. Et qu'on les respecte et qu'on les honore sans tomber dans l'extrémisme et dans l'exagération, comme par exemple les chrétiens sont tombés eux dans l'exagération et dans l'extrémisme à propos de Al-Masih Isa ibn Maryam. Ils l'ont tellement respecté qu'ils sont tombés même dans le shirk et dans l'idolâtrie avec Isa, et ils ont élevé Isa au niveau de divinité et ils l'ont adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est de l'extrémisme et de l'exagération dans la croyance. Ou bien l'extrémisme des adorateurs des morts et des tombes parmi les musulmans même, ou ceux qui se disent musulmans de cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu en vois parmi les musulmans qui vénèrent les morts, qui les invoquent et qui leur recherchent la bénédiction, la baraka des tombes et ainsi de suite. La même chose aussi à propos des awliya et des asiyad et ainsi de suite. Et ils vont faire même des pèlerinages à leurs tombes, hein, ils vont les adorer, les invoquer, parfois ils vont même faire des sacrifices d'animaux à leurs tombes. Ils prennent par exemple, s'il y a une source d'eau à côté de leur tombe, eh bien ils vont prendre cette eau comme une eau bénite, hein, et puis ils vont se laver avec, croire qu'elle a des pouvoirs ou des choses de ce genre. Il y a toutes sortes de shirk qu'ils font avec ceux qu'ils appellent les awliya, les asiyad et ainsi de suite, et les salihin. Donc ça c'est de l'extrémisme et c'est de l'exagération dans le respect qui est offert ou voué à ces hommes pieux et à ces messagers et à ces prophètes. Et c'est ça en fait que Allah nous interdit. Mais par contre il faut les respecter, hein, il faut les respecter et les aimer, mais sans tomber dans l'extrême. Sans tomber dans l'extrême. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le verset 157 dans Surat Al-A'raf, et ceux qui ont cru en lui et qui l'ont respecté et qui l'ont défendu et secouru et qui ont suivi la lumière avec laquelle il est venu. Hein? Donc ça c'est pour dire qu'il faut respecter les prophètes. Et le cheikh explique que le terme ta'zir qui est mentionné dans le verset, ça peut être utilisé dans deux sens qui sont opposés. Le premier sens c'est dans le sens justement du respect et de l'honneur, et c'est ça qui est voulu dans ce verset. Et l'autre sens c'est le fait de punir, hein, punir quelqu'un pour des contradictions qu'il a fait ou des choses qu'il a fait qui sont en contradiction avec l'islam, au sujet desquelles il n'y a pas de peine précise qui ont été révélées ou d'expiation qui ont été mentionnées. Comme par exemple, il y a des choses que quelqu'un peut faire, des péchés que quelqu'un peut faire, et que s'il se fait attraper, il va passer devant par exemple le juge, et le juge va lui donner une peine, une punition. Mais étant donné que son péché là qu'il a fait, il n'y a pas de prescription spécifique dans la charia pour ce genre de péché là, mais le juge va lui-même décider d'une peine par rapport à qu'est-ce qui correspond à ce crime qu'il a posé. Peut-être qu'il va l'emprisonner pour un certain temps, peut-être qu'il va ordonner par exemple un certain nombre de coups qu'il doit être frappé ou des choses de ce genre, puisque il n'y avait pas une prescription spécifique dans la charia sur ce péché-là. On appelle ça al-ta'zir. Al-ta'zir. Wa aqradtumullaha qardan qu'est-ce que ça signifie que vous faisiez à Allah un prêt, hein, un bon prêt? Ça veut dire quoi de faire un prêt à Allah? Le cheikh il dit يعني انفاق الأموال في سبيله وابتغاء مرضاته كأنك تقرض الله عز وجل لأن الله يرده عليك مضاعفا أضعافا كثيرة فهو سبحانه ليس في حاجة إلى القرض وإنما الفائدة عادة عليك فأنت تعطيه للفقير والله يعوضك ويضاعفه لك فالله غني عن خلقه فأنت إنما تقرض نفسك في الحقيقة ولكن لما كانت الصدقة لوجه الله ولطلب الثواب من الله يعني صرت كأنك أقرضته لله وكأنك يعني أطعت أمر الله لأنك أطعت أمر الله ولهذا قال قرضا حسنا وصفه بالحسن يعني لا منة فيه أما القرض الذي يكون فيه منة فإنه باطل قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكذلك القروض التي تكون بين الناس يكون فيها ربا فإنها باطلة لأنها قروض ربوية ليست حسنة ولقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا donc le cheikh il explique, il dit donner un prêt à Allah, ça veut dire que tu dépenses tes biens dans le sentier d'Allah, en recherchant l'agrément d'Allah. C'est comme si tu prêtais à Allah de l'argent, tu prêtais quelque chose à Allah. Parce que Allah, il va te le rembourser et te le remettre, mais il va te le remettre des fois, il y en a beaucoup plus, des fois multiplié, hein, en double et en triple et en mille fois, dix fois. 10 000 fois plus. On ne sait pas combien de fois Allah va nous le, en combien de fois Allah va nous le remettre. Il va multiplier la valeur de ce prêt là quand il va nous le rendre. Et Allah, il n'a pas besoin d'un prêt. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de prêt. Le bienfait de ce prêt, il revient à toi en réalité. Il ne revient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, quand tu vas donner de l'argent à un pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te le remettre en double, en triple ou en plus encore. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun besoin de sa créature. Il est rani, il est riche. Donc quand tu prêtes à quelqu'un, quand tu donnes à quelqu'un, c'est comme si tu te faisais un prêt à toi-même, en réalité. Et étant donné que la sadaqa, quand on donne un don ou qu'on fait une aumône ou une charité, hein, en réalité, on le fait pour Allah, dans le sens qu'on le fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour rechercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est comme si tu avais fait un prêt à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu as obéi à l'ordre d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé ce prêt « hasanan ». Il l'a décrit comme étant un bon prêt. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire, il n'y a aucune faveur dedans. Dans le sens que, quand tu donnes ce prêt-là, tu ne recherches pas de la personne à qui tu as fait ce don aucune faveur, aucun remerciement. Parce que sinon, il est faux, il est totalement faux ton prêt ou ton don que tu as fait, ou ton aumône, ou cette charité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, ô vous qui avez cru, n'annulez pas la valeur de vos dons, de votre charité, en faisant yani, le rappel de la faveur que vous avez faite, et en essayant de faire du tort à la personne. Par exemple, tu donnes à quelqu'un il avait besoin d'argent, tu lui donnes 100 dollars. Après, à chaque fois que tu le rencontres, tu lui dis, tu te souviens, je t'ai donné 100 dollars, hein? Oublie pas, hein? Je t'ai fait un don, hein? Je t'ai aidé, hein? Quand tu avais besoin d'aide. ou bien peut-être un jour lui aussi il a besoin de quelque chose, il vient te voir, il me dit l'autre jour je t'ai prêté 100 $, hein, prête-moi 50 $. Tu dis j'en ai pas. Ah, je t'ai prêté 100 $ l'autre jour, maintenant je te demande 50 $, tu veux pas me le prêter? Yani, ça c'est pas correct. Parce que si tu l'as donné à la personne, tu l'as donné pour Allah. Pas pour que lui, quand toi tu sois en difficulté, il te le redonne. Sinon, ça veut dire que tu ne l'as pas donné pour Allah, tu l'as donné pour que lui te redonne après. Ou pour qu'il t'aide quand toi tu as de la difficulté ou des choses comme ça. Et tu lui fais du tort en lui rappelant à chaque fois le bien que tu lui as fait. Non, si tu as fait un bien à quelqu'un, rappelle-lui pas à chaque fois le bien que tu lui as fait. Fais-le pour Allah et puis c'est tout. Recherche ta récompense d'Allah seul. N'essaie pas d'avoir quelque chose en retour, une faveur ou un bien de la part de la personne à qui tu as fait du bien. Hein? Et donc, le cheikh, il explique, il dit que même entre les prêts qu'on fait entre les gens, dans l'islam, si on prête à quelqu'un, c'est pour l'aider. Hein? Et c'est pour lui faciliter sa tâche. Et ça, c'est le contraire de la mentalité des koufars aujourd'hui quand ils prêtent avec riba. C'est-à-dire, ils disent, ok, je te prête 100 $, mais toi, tu vas me remettre la prochaine fois 120 $. Hein, après un mois ou deux. Si la personne arrive à, par exemple, à la fin du terme, après deux mois, tu viens le voir, tu dis, écoute, donne-moi mon argent maintenant. Et là, il dit, mais je peux pas, j'en ai pas. D'accord, je te donne un autre délai, mais tu dois me donner la prochaine fois 140. Hein? Donc si là maintenant il ne pouvait pas te donner 120, hein? Comment plus tard il va pouvoir te donner 140? C'est encore plus difficile pour lui. Et en réalité, le prêt, tu lui fais, mais c'est pour avoir quelque chose, un intérêt de plus. Hein? Et donc ça, ce n'est pas un prêt qui est bon. Hein? Ce n'est pas un qard hasana. Et les ulama, ils ont dit, tout prêt, c'est une règle. Ils disent que les ulama sont tous d'accord sur ce principe-là, que tout prêt que tu fais à quelqu'un qui te ramène un bienfait, plus que qu'est-ce que tu as prêté, alors ça c'est du riba. Donc si tu prêtes à quelqu'un, puis que tu lui demandes quelque chose en plus, même si ce n'est pas de l'argent nécessairement, hein, ou bien tu dis, je te prête ça, puis en retour tu dois me faire ça. Plus que qu'est-ce que je t'ai prêté. Ça, c'est du riba. Ça rentre dans l'intérêt. Après, le cheikh, il dit, « La ukafiranna » il mentionne le verset, « La ukafiranna ankum sayyatikum, wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Fahadha jaza'u al-wafa'a bil-ahd. Wa man khana, faqad dalla. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ il dit فَقَدْ ضَلَّ يعني تَاهَ عَنْ طَرِيقِ الْهِدَايَةِ وَعَدِلَ عَنْ سَبِيلِ الْمُسْتَوِي الْمُعْتَدِلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَسَوَاءَ السَّبِيلِ هُوَ السَّبِيلَ السَّوِيَ الْمُعْتَدِلَ الدَّالَّ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il dit, si vous faites les conditions que je vous ai demandées, eh bien, je vais expier vos péchés. Je vais vous faire rentrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est-à-dire le paradis. Et ça, c'est la récompense d'avoir respecté l'engagement qu'on a pris avec Allah. Tandis que celui qui trahit cet engagement-là, eh bien, il s'est égaré. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Quiconque a rejeté la foi, a brisé et a trahi cet engagement parmi vous après cela, eh bien il s'est certes égaré de la droiture du chemin. Et donc il s'est égaré, il s'est perdu. Hein, il a perdu la guidance, il n'a plus de guidance. Il s'est éloigné du chemin qui était droit, il est allé vers les chemins qui sont proches, hein, qui l'ont fait perdre sa route. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, lorsqu'il dit « Voici mon droit chemin. Hein? Voici mon droit chemin. » Et donc, « Sawa al-Sabil », la droiture du chemin, c'est le chemin qui est droite, qui est équilibré. C'est le chemin que Allah nous a indiqué. Il dit ensuite « ثم بين موقفهم من هذا العهد فقال فبما نقضهم ميثاقهم يعني لما لم يفوا بهذا الميثاق ولم يقوموا بهذه الأعمال لعناهم يعني طردناهم وأبعدناهم عن رحمة الله عز وجل وجعلنا قلوبهم قاسية وهذا مثل الآية التي ساقها قبلها من سورة الحديد حيث قال فقست قلوبهم أي بسبب نقضهم الميثاق الذي بينهم وبين الله عز وجل عاقبهم فجعل القسوة في قلوبهم وهذا يدل على أن المعاصي تؤثر في القلوب قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Donc le cheikh il dit c'était quoi leur position par rapport à cet engagement qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les juifs, Banu Israël. Il dit à cause du fait qu'ils ont brisé cet engagement-là, hein, lorsqu'ils n'ont pas respecté l'engagement et n'ont pas tenu hein, les conditions dans les œuvres qu'on leur avait ordonné de respecter, eh bien, la'annahu. Yani Allah, il les a maudits. Et la'na, ça veut dire du fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. Donc Allah les a éloignés de sa miséricorde. Il les a chassés de sa miséricorde. Et il a rendu leur cœur dur. Il a endurci leur cœur. Comme dans le verset dans Surat al-Hadid qu'on a mentionné au début, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Donc leurs cœurs sont devenus durs à cause du fait qu'ils ont brisé l'engagement qu'ils avaient entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a punis en rendant leur cœur dur. Et ça, c'est la preuve que les péchés ont un effet sur les cœurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 14, dans Surat al-Mutaffifin, non, certes, hein, ce qu'ils ont acquis, entaché leur cœur, a voilé leur cœur, hein, a mis comme un genre de voile sur leur cœur. Et dans le hadith qui explique justement ce verset, il y a l'exemple que lorsque quelqu'un commet un péché, ça met une tache, comme de la rouille, sur le cœur. Hein? Et plus que la personne commet le péché, plus que le cœur commence à être complètement rempli de taches, jusqu'à ce que, hein, il ne puisse plus à la fin distinguer entre le bien et le mal, et il devient complètement aveuglé. Hein? Puis par contre s'il fait du bien et s'il se repent et demande pardon, cette tâche s'efface, hein? Et aussi il y a un autre hadith qui mentionne qu'il peut y avoir, il devient blanc aussi, hein? S'il fait du bien et ainsi de suite. Après le cheikh il dit فالمقصود أن الله نهى هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك وأمرها أن تفيء بعهد الله أن تفيء بعهد الله سبحانه وتعالى الذي أخذه عليها وأن تفيء بالعهود التي بينهم وبين الناس وأن لا تغدر ولا تخون. أي نعم. Donc le cheikh il dit que, donc ça c'est pourquoi Allah dit tout ça dans ces versets là, c'est pour dire que il a interdit à cette umma de suivre la voie de Bani Israël et il leur ordonne de respecter leur engagement vers Allah, l'engagement qu'ils ont pris, et de respecter donc les engagements qu'ils ont non seulement avec Allah mais aussi avec les hommes, hein? Donc de ne pas trahir, de ne pas tricher, de ne pas manquer à notre engagement. Et il termine en expliquant la fin de qu'est-ce que Cheikh l'Islam a mentionné. Il dit وقوله وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسبون إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة. يعني أن هذه الأمة من هذه الأمة من أخذ بنصيب من هذه الصفات الذميمة وتشبه باليهود إما بأنه نقض عهد الله أو أضاع الصلاة أو عطل الزكاة بل من الأمة اليوم من يتشبه باليهود ويأخذ بصفاتهم فآذى الأنبياء والعلماء والصالحين ومن هؤلاء من يعترض على آيات القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه الأفعال كلها من أعمال أصحاب الجحيم ولذلك تجب مخالفتهم تجب مخالفتهم فيجب على المسلم أن يحترم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالمسلم يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين ولكن من غير علو ولا تفريط أو تساهل في حقهم أو يجحد نبوة أحد منهم أو يتنقصه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب لأن المفاضلة من باب الفخر وتنقص المفضول لا تجوز وأما المفاضلة من باب التحدث بنعمة الله عز وجل من غير تنقص للمفضول فهذا لا بأس به قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فالله فضل بعض الرسل على بعض ولكن لا يجوز أن نتخذ التفضيل من باب التنقص ومن هذا التنقص أن بعض الكتاب تنقص كليم الله موسى عليه السلام ووصفه بالغلظة والشدة ووصفه بأوصاف ذميمة فهذا من التجرؤ على رسل الله عليهم الصلاة والسلام Donc le cheikh il termine ce passage, il explique que parmi cette umma, il y en a malheureusement qui s'apparentent à la science et à la religion et qui ont pris certaines caractéristiques de Bani Israël, des juifs. Et il dit donc que ça c'est, yani, qu'est-ce qui a été mentionné, c'est qu'est-ce qui est interdit de prendre des caractéristiques blâmables et de ressembler aux juifs. Ça c'est quelque chose qui nous a été interdit. Par exemple, parmi ces caractéristiques, de briser l'engagement qu'on a pris avec Allah, ou d'abandonner la salat, ou de ne pas donner la zakat. Hein? Et aujourd'hui, il y en a qui ressemblent aux juifs même dans d'autres caractéristiques, comme par exemple de faire du tort au prophète, de faire du tort au prophète et aux ulama et aux hommes pieux, et même de s'opposer au verset d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça sont des actions des gens de l'enfer, et il faut les contredire dans ces actions-là. Et il est obligatoire aux musulmans de respecter le livre d'Allah et la sunna de son messager, et d'avoir du respect envers les signes et les obligations d'Allah et les rites et les principes de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'avoir du respect et que ça fait partie de la piété du cœur. Et le musulman doit respecter le messager sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes et les messagers sans tomber dans l'extrémisme et dans l'exagération et sans tomber dans le laxisme et le laisser aller à propos des prophètes et des messagers. Et on ne doit pas non plus renier la prophétie ou le fait que l'un d'entre eux soit un prophète, ni de les diminuer en quoi que ce soit. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dit je suis meilleur que Younes ibn Matta, il a menti. Parce que c'est vrai qu'il y a des prophètes qui sont meilleurs que d'autres, mais on n'a pas le droit de le dire dans le sens que on vante un en diminuant les autres. Ça, c'est pas permis. Mais de mentionner l'excellence de l'un d'entre eux en mentionnant ça dans le sens de vouloir parler, de mentionner les grâces d'Allah, ça c'est correct. Tant qu'on n'essaie pas de diminuer ceux qui sont moins grands Il n'y a pas de problème avec ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, comme le verset 253, dans Surat al-Baqarah, il dit « Voici les messagers, certains d'entre eux nous avons préféré sur d'autres. Parmi eux, nous avons, hein, parmi eux, certains d'entre eux, Allah a parlé, hein, leur a parlé. Et il a élevé d'autres en degré. Et nous avons donné des preuves claires et évidentes à Isa, le fils de Marie, et nous l'avons supporté par l'Esprit Saint. » Donc Allah a préféré certains messagers au-dessus de d'autres. Mais il n'est pas permis de parler à propos de certains d'entre eux d'une manière qui diminue ou dénigre les autres. Contrairement à certains écrivains à notre époque qui ont parlé en mal du prophète d'Allah, Moussa alayhi salam, et qui l'ont décrit en disant de lui qu'il était dur ou qu'il était, il y en a des choses de ce genre, et des caractéristiques blâmables, hein, comme Sayyid Qutb, qu'est-ce qu'il a dit à propos de Moussa alayhi salam, qu'il était un homme, il a dit « asabi ou le misage ». Il parlait de lui d'une manière dérespectable, sans respect. Donc c'est inacceptable de traiter ou de parler des messagers de cette manière-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine. Bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته